Voix Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 28 février 2017. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Alberson. Pour commencer, les titres.
Au Burkina Faso, des djihadistes attaquent deux commissariats dans la province du Soum.
Pendant ce temps, début hier, dans le pays, des exercices militaires américano-burkinabés Flintlock.
Le chef du gouvernement d'Union nationale de Libye, Fayez al-Sarraj, se rend à Moscou à partir de jeudi.
En Guinée, le président Alpha Condé a limogé trois ministres à la suite des violentes manifestations liées à une grève des enseignants la semaine dernière.
Ici à Washington, le président Donald Trump s'adresse pour la première fois ce soir aux deux chambres du Congrès réunies.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute écho pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, des djihadistes ont attaqué deux commissariats dans la province septentrionale du Soum, près de la frontière malienne, dans la nuit de lundi à mardi. Cette attaque intervient deux mois après celle qui a coûté la vie à 12 soldats dans le même secteur. Deux de nos commissariats ont été attaqués cette nuit à Baraboulé et Tongomael, a affirmé à l'AFP le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, sans donner de bilan. Deux sources sécuritaires ont parlé de djihadistes. Cette attaque est survenue pendant le 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO, qui attire des dizaines de milliers de cinéphiles, dont de nombreux étrangers, dans la capitale.
Cette dernière attaque coïncide aussi avec les exercices militaires américano-burkinabés qui ont débuté hier au Burkina Faso. Le but de ces manœuvres, baptisées Flintlock, est d'améliorer les capacités opérationnelles des militaires pour contrer le terrorisme. Le point avec Bagassi Koura.
Le Burkina Faso participe depuis 10 ans aux manœuvres Flintlock. C'est la deuxième fois après 2010 qu'il accueille cet exercice qui se tient également dans 6 autres pays, notamment au Tchad, au Cameroun, au Niger, en Mauritanie, au Maroc et en Tunisie. Cet exercice prévu pour durer 3 semaines est financé par les États-Unis. À Camboinsin, au nord de Ouagadougou, la formation militaire est dirigée par un détachement des forces spéciales américaines. À Bobo-Dioulasso, à l'ouest du pays, elle est assurée par des forces spéciales des Pays-Bas. L'état-major général précise que les participants, dont le nombre n'a pas été dévoilé, mèneront des exercices tactiques de petites unités pour inclure des parcours de tir, des mouvements motorisés ou à pied, des exercices de reconnaissance ou de combat rapproché. Le Burkina Faso est entré depuis avril 2015 dans un cycle d'enlèvement et d'attaques islamistes, surtout dans le nord frontalier du Mali et du Niger.
La Russie, de plus en plus active dans le dossier libyen. Le chef du gouvernement d'Union nationale de Libye, Fayez al-Sarraj, se rend à Moscou à partir de jeudi. Peu de détails sur cette visite, mais elle intervient quelques jours après une série d'initiatives diplomatiques engagées par les voisins de la Libye. Abdourahman Dia.
Ces efforts diplomatiques visent à rapprocher Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement basé à Tripoli, et son rival, le maréchal Khalifa Haftar, basé dans l'est du pays, qu'il a d'ailleurs précédé à Moscou après avoir embarqué à bord d'un porte-avions russe au large de la Libye. M. Sarraj va tenter d'obtenir le soutien de la Russie à une révision de l'accord politique interlibyen conclu sous l'égide des Nations Unies en décembre 2015 au Maroc. Cette révision doit permettre de donner un plus grand rôle au maréchal Haftar en échange de son soutien au gouvernement d'Union nationale. Par ailleurs, la Compagnie nationale libyenne du pétrole a récemment signé un accord de coopération avec le géant russe Rosneft pour des investissements dans le secteur pétrolier en Libye. Une bonne partie des champs pétrolifères sont dans l'est du pays, sous le contrôle des hommes de Khalifa Haftar.
Le Maroc a signé lundi plusieurs accords de financement, notamment dans le domaine militaire, avec la Côte d'Ivoire, en vue de renforcer sa présence dans ce pays devenu la première destination des investissements extérieurs du Maroc. 14 conventions ont été signées, notamment pour la mise en place du financement du projet Hexagone, faisant partie des projets prioritaires de la loi de programmation militaire 2016-2020 en Côte d'Ivoire. Le roi Mohamed VI, en visite à Abidjan depuis vendredi, et le président ivoirien Alassane Ouattara ont assisté à la cérémonie de signature.
En Guinée, le président Alpha Condé a limogé trois ministres, selon un décret lu lundi à la télévision nationale, à la suite des violentes manifestations liées à une grève des enseignants la semaine dernière et qui se sont soldées par la mort de 7 personnes et par des dizaines de blessés. Le décret ne fournit aucune explication sur ces limogeages. Selon l'agence Reuters, les ministres concernés sont Ibrahima Kourouma, ministre de l'Éducation, Sékou Kourouma, ministre des Services civils, et Christine Sagnot, ministre de l'Environnement.
Au Kenya, le gouvernement va cesser de financer toute publicité dans les médias privés du pays. Les autorités comptent lancer leur propre journal gratuit. De nombreux acteurs des médias qualifient la décision de tentative de museler la liberté de la presse. Jacques Aristide.
Les encarts publicitaires payés par le gouvernement rapportent près de 20 millions de dollars chaque année aux journaux kényans. À la place, le gouvernement offrira gratuitement son journal intitulé MyGov pour faire des économies. Dans un mémo, le secrétaire général de la présidence, Joseph Kinuya, ordonne aux agents administratifs en charge de la publicité de diriger tous les encarts vers le nouveau journal gouvernemental sous peine de sanctions disciplinaires. L'ONG Article 19 estime que cette décision témoigne d'un projet délibéré du gouvernement de Nairobi d'avoir le contrôle du contenu éditorial des médias. Henri Maina, son directeur régional, d'ajouter que c'est une menace sérieuse pour la gestion et le fonctionnement des journaux indépendants. Le régime actuel est perçu comme très hostile aux médias. Dans un pays où la liberté d'expression est plutôt bien ancrée, le Kenya figure à la 95e place sur 180 au classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières.
En Tanzanie, le gouvernement a renoncé hier à son projet de publier les noms d'homosexuels faisant commerce de leur corps. Une volte-face justifiée selon lui par des raisons techniques et le souci de préserver les preuves à charge. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
C'est sur Twitter que le vice-ministre de la Santé, Amizi Kigwangala, a annoncé l'annulation de la conférence de presse durant laquelle les noms de personnes homosexuelles devaient être révélés. Le vice-ministre évoque des raisons stratégiques et le fait que cela pourrait détruire des éléments de preuve. Les autorités tanzaniennes avaient annoncé le 18 février dernier leur intention de publier une liste de gays qui vendent leur corps sur Internet quelques jours après la fermeture de centres de santé spécialisés dans la lutte contre le sida, des centres accusés de promouvoir l'homosexualité. En Tanzanie, comme dans 38 des 54 pays africains, l'homosexualité est illégale, elle est punissable de lourdes peines de prison, mais c'est seulement récemment que les autorités ont adopté une rhétorique anti-gay. Les États-Unis, l'un des principaux partenaires de la Tanzanie, ont critiqué la fermeture des centres dédiés à la lutte contre le sida.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump s'adresse ce soir aux deux chambres réunies du Congrès américain. Hier, il a proposé une hausse historique des dépenses du Pentagone et une réduction de l'aide à l'étranger. Chérubin Dorsil.
Ce sera son premier discours devant le Congrès réuni au grand complet. Hier, le président Trump, lors d'une rencontre avec les gouverneurs, a affiché sa volonté de présenter un budget dit de sécurité nationale. La Maison-Blanche va proposer une hausse de 54 milliards de dollars pour la défense, qui serait compensée par une baisse des dépenses non militaires. La plupart des agences fédérales vont devoir subir une cure d'amaigrissement accompagnée d'une importante réduction de l'aide internationale. Un plan détaillé du budget fédéral de près de 4 000 milliards de dollars est attendu dans les semaines à venir. Le Congrès, qui tient les cordons de la bourse, aura le dernier mot. Avec près de 600 milliards de dollars, les dépenses militaires américaines sont de loin les plus importantes du monde. Elles sont trois fois plus élevées que celles de la Chine, la deuxième puissance militaire, et plus de huit fois supérieures à celles de la Russie.
La Maison-Blanche a par ailleurs reçu hier les options proposées par le secrétaire à la Défense, Jim Mattis, pour intensifier la lutte contre le groupe État islamique. Le plan, dont les détails n'ont pas été rendus publics, devra être discuté par les principaux responsables de l'administration Trump.
Après avoir pris le contrôle d'un des 5 ponts sur le Tigre, les forces irakiennes veulent accentuer la pression sur les djihadistes assiégés dans l'ouest de Mossoul, dernier fief du groupe État islamique dans le pays. Cette victoire militaire lundi ne fait rien en revanche pour calmer les craintes pour les centaines de milliers de civils pris au piège des combats et en manque de tout dans les quartiers ouest de la deuxième ville d'Irak.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies va être ce mardi le théâtre d'un nouveau bras de fer entre les États-Unis et la Russie en profond désaccord sur l'imposition de sanctions à la Syrie pour avoir utilisé des armes chimiques. Moscou a déjà prévenu qu'il usera de son veto, comme il l'a déjà fait à 6 reprises, pour protéger son allié syrien. Le vote marquera la première grande décision du Conseil depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, qui cherche à se rapprocher de la Russie.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Écho, Morgane Guiriec.
La Banque mondiale s'engage à hauteur de 60 millions de dollars pour aider à remplir les caisses vides de la Gambie. Le nouveau gouvernement accuse l'ancien président Yahya Jammeh d'avoir siphonné des dizaines de millions de dollars de fonds publics avant son exil en Guinée équatoriale. En Tunisie aussi, les comptes publics sont dans le rouge, une situation qui inquiète les institutions comme le FMI, qui parle de dérapage de la politique budgétaire et de masse salariale de la fonction publique parmi les plus élevées au monde. Il faut dire que les emplois dans la fonction publique ont augmenté de 13% entre janvier 2011 et fin 2015, mais la masse salariale a crevé tous les plafonds avec une augmentation de 47% sur la même période. Enfin, pêche illégale au Libéria. 3 navires ont été arraisonnés lors d'une patrouille conjointe de l'armée libérienne et de l'ONG écologiste Sea Shepherd.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en Zambie.
Dans le groupe B hier, le Soudan et le Sénégal ont fait match nul, 1-0. À noter que les Lionceaux de la Teranga ont joué à 10 pendant 75 minutes de jeu. L'Afrique du Sud, de son côté, affrontait le Cameroun et 3-1 pour les Sud-Africains. À suivre demain dans le groupe A, la Guinée face à l'Égypte et le Mali face à la Zambie. Dimanche, la Zambie, le pays organisateur, s'est imposé 1-0 face à la Guinée. Lors du match d'ouverture, les Zambiens ont pris l'avantage au retour des vestiaires sur un but de l'attaquant Patson Daka. L'Égypte et le Mali avaient fait match nul 0-0. La Zambie est donc leader de cette poule avec 3 points devant le Mali et l'Égypte, 1 point. La Guinée est dernière avec 0 point.
Le président de la FIFA poursuit sa visite à Niamey.
Après l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Rwanda et l'Ouganda, Gianni Infantino est arrivé hier au Niger. Le président de la FIFA a promis une Coupe du Monde 2026 à 48 équipes, vous le savez, et le continent africain réclame 10 places et non 9, comme ce serait le cas actuellement. Le président de la FIFA a inauguré des installations financées par la FIFA pour le plus grand bonheur du colonel Djibril Ima Amidou, le président de la Fédération nigérienne de football que j'ai joint hier soir à Niamey.
Pour tout président de fédération, je crois que c'est une fierté d'accueillir quand même le président de la FIFA qui est notre maison mère. C'est une visite pour l'inauguration des infrastructures que la FIFA a construites dans notre pays, du centre technique national de la Fédération nigérienne de football qui a été financé sur fonds FIFA. C'est une visite qui était programmée depuis longtemps, qui ne fait que concrétiser. Elle a été simplement retardée parce que nous n'étions pas encore prêts. Les infrastructures n'étaient pas finies. Et notamment et particulièrement de l'hôtel du centre technique, un nouvel hôtel qui a été construit pour l'hébergement des grandes équipes.
Sur le débat, vous, de la Coupe du Monde à 48 équipes, l'Afrique qui va avoir une plus grande place, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez ça normal?
Si l'Afrique doit bénéficier de plus de places, je ne peux que trouver ça normal. D'abord, il faudra que les gens sachent que ce n'est pas pour l'immédiat, ce n'est pas pour la Coupe du Monde 2018 ou 2022, c'est pour la Coupe du Monde 2026. Donc, on a le temps de voir venir. Je pense qu'auparavant, des années auparavant, quand la Coupe du Monde se jouait et qu'elle se jouait à 16, quand il fallait passé à 32, les gens avaient eu les mêmes genres de débats et les mêmes appréhensions. Pourtant, ça n'a pas dénaturé la Coupe du Monde, à ce que je sache. Donc, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on passe à 48. Si les techniciens ont pris le temps d'étudier ça et dire que ça peut se faire, c'est que c'est faisable.
C'était le colonel Amidou, le président de la Fédération nigérienne de football.
C'est parti pour la Tropical Amissa Bongo, c'est du cyclisme au Gabon.
Oui, la 12e édition a démarré hier à Moanda avec la victoire de l'Espagnol Mikel Aristigardoki de l'équipe d'Elco Marseille Provence KTM pour la première étape. La deuxième étape, c'est ce mardi entre Léconi et Franceville, 98 km. Allez Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Toronto 92, New York Knicks 91, Golden State Warriors 119, Philadelphie 108, Milwaukee 95, Cleveland 102, Atlanta 114, Boston 98 et Miami 89, Dallas 96.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Accalmie en République démocratique du Congo à Rutshuru, après une semaine de troubles dans ce territoire situé à 80 km au nord de Goma, dans l'est du pays. Des affrontements avaient opposé l'armée congolaise aux éléments de l'ex-mouvement rebelle du M23, Charlie Kasereka, à Goma.
Duncan pense que le mouvement rebelle M23 avait retourné en RDC, y menait une nouvelle guerre, et profitant de la situation politique actuelle en RDC. Stéphane Machukano est un acteur politique ici au Nord Kivu qui condamne cette nouvelle agression et présente sa crainte.
On aimerait assez que le gouvernement éclaircisse ce point et qu'on n'entende plus jamais parler de ce mouvement M23 parce que nous savons qu'il a été vaincu. Finalement, qu'est-ce qui se cache derrière ce M23?
La crainte, c'est aussi les journalistes qui sont menacés. C'est samedi, le directeur de la radio Kivu 1, émettant depuis Goma, a reçu des menaces par un individu qui s'est présenté comme un officier M23, lui menaçant de porter atteinte à sa vie et celle de sa famille dans l'heure prochaine à sortir la ville de Goma.
Il m'a appelé, il doit envoyer d'abord des SMS, des menaces, qu'il prendra mon média, qu'il va prendre ma maison. On a parlé pendant 6 minutes et ça a été dur. Il a confirmé qu'ils vont prendre la ville de Goma dans un mois et que je serai la cible avec mon média. Mais bon, moi, j'ai choisi ce métier. Hein. C'est des métiers où on doit être très prudent. Pourtant, on a vraiment gardé toute la prudence, mais je m'inquiète pour les miens.
Sur les terrains à Rutshuru, actuellement, c'est un calme apparent après une semaine de troubles dans les collines et les vallées de ces territoires frontaliers avec le Rwanda et l'Ouganda. Il y a eu contact et échange de tirs, confirme l'officier Guillaume Djike, porte-parole militaire de Sokola 2, qui présente les premiers bilans.
Il y a deux éléments externes dans toi tué. 50 se sont rendus au près et nous avons récupéré 8 armes sur l'ennemi. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont tous les moyens matériels et humains pour marcher quiconque oserait mettre à mal la quiétude de notre population pour ça que notre population soit rassurée.
Pour les cadres du mouvement rebelle, les ex-combattants M23 qui voulaient retourner en RDC étaient non armés et n'avaient aucune intention de mener la guerre. Bertrand Bissimwa, président du mouvement M23, qui est aussi en exil en Ouganda.
Les informations que j'ai font état d'une offensive lancée par le gouvernement congolais contre des ex-combattants et ils sont rentrés pour aller se réinstaller dans leur pays, étant donné que le gouvernement congolais a refusé d'utiliser les moyens de retour qui étaient prévus par les déclarations de Nairobi.
Gilem Paluku, gouverneur du Nord Kivu, l'un des experts présents à Nairobi lors des discussions en 2013, précise que le gouvernement congolais n'avait jamais signé d'accord avec le mouvement rebelle M23 si ce n'était que des déclarations. Difficile actuellement de savoir avec certitude si, après les affrontements de la semaine dernière, tous les éléments M23 auraient retourné en Ouganda, d'où ils sont venus. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Burundi, déterrement des restes humains de 4 fosses communes ce lundi dans la province centrale de Mwaro. La Commission Vérité et Réconciliation, la CVR, a promis de donner une sépulture digne aux Burundais qui se trouvent aujourd'hui dans plus de 2500 fosses communes découvertes dans le pays depuis les années 1700, selon un expert cité par notre correspondant sur place de Bujumbura, Christophe Kurunziza.
La commission Vérité et Réconciliation a commencé ce lundi dans la localité de Mwaro, au centre du Burundi, le travail d'exhumer certains corps entassés dans 4 fosses communes. Un travail de 3 jours pour commencer l'enterrement digne des personnes décédées dans les différentes crises qu'a traversé le Burundi depuis la monarchie. Dans cette localité de Makamba, plusieurs témoignages parlent de tueries faites à l'endroit des Hutus en 1972, mais tout le monde a appelé à la retenue car dans d'autres endroits du pays, il y aurait eu des personnes de l'ethnie Tutsi tuées. La Sécurité générale général, la Commission Vérité et Réconciliation a fait le lancement officiel, Clotilde Niragira.
Cette activité, nous l'avons déjà commencée à mairie de Bujumbura, là où nous avons recueilli près de 500 dépositions. Mais nous avons déjà lancé cette activité ici dans la province de Mwaro, Lumonge et Muramvya, là où nous avons déjà identifié points focaux de la Commission Vérité et Réconciliation qui vont nous aider à la recherche de ces vérités-là.
Dans une conférence de presse publique où étaient invités des experts et les autorités burundaises, le président de la Commission Vérité et Réconciliation est revenu sur le travail de mémoire de la Commission, Monseigneur Jean-Louis Nahimana.
Les victimes des crises cycliques qu'a connues notre pays et qui ont été entassées dans des fosses communes méritent de recouvrer leur dignité. Et c'est une obligation morale, c'est une obligation légale de la Commission Vérité et Réconciliation.
Certains Burundais estiment que ce travail de mémoire ne peut pas se faire sans privilégier le volet judiciaire, mais la secrétaire générale de la CVR estime que la justice sociale est privilégiée dans ce travail qu'a amorcé la Commission en manque de liquidité pour une véritable réconciliation des Burundais, Clotilde Niragira.
La CVR, elle s'occupe de la justice sociale des victimes et ne s'occupe pas de la justice pénale, bien évidemment. Elle s'occupe de cette justice sociale qui va vers la réconciliation du peuple burundais.
Ce travail scientifique d'exhumation des ossements nécessite la présence d'anthropologues pour le mener à bien. Tania Delabarde est consultante au Comité international de la Croix-Rouge.
Le problème avec les exhumations des fosses communes, c'est qu'elles doivent se faire selon des protocoles standardisés, dans le respect des corps et la dignité pour les victimes. Et donc cela nécessite des formations. Et vous avez la chance au Burundi de pouvoir compter avec des équipes qui ont été formées dans la gestion des corps en problématique de catastrophe.
La Commission Vérité et Réconciliation mise en place en mars 2016 pour étudier tous les crimes commis depuis l'indépendance du pays en 1962 jusqu'en 2008. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Au Congo-Brazzaville, les opposants s'inquiètent des conditions de détention de leurs collègues incarcérés depuis des mois et sans procès. Si les ONG locales dénoncent des conditions horribles, le gouvernement assure, lui, que les prisonniers ont le minimum lié à leur statut. De Brazzaville, reportage d'Ongwela Ngosu, notre correspondant.
Depuis la mort en prison du colonel Marcel Ntourou, ancien numéro D des renseignements du Congo, l'opinion s'interroge sur les conditions de détention dans les maisons d'arrêt. Il s'agit notamment de la condition des prisonniers politiques. L'opposant Paul-Marie Mpouélé a passé 6 mois en prison en 2012. Il raconte son expérience.
Très, très déplorable. Ce qui ne peut pas m'étonner que quelqu'un meure à la maison d'arrêt parce que l'infirmerie est complètement dégarnie, il n'y a pas de matériel, je me demande même si le personnel est vraiment qualifié. Donc, j'avoue que vraiment, en termes de suivi sanitaire, non, c'est un mouroir. Il n'y a rien à faire, c'est un mouroir.
Une dure situation humanitaire que confirme ici Luamba Moké, président d'une ONG à Duc, qui travaille dans l'univers carcéral.
Vous savez que la prison de Brazzaville, qui a été construite en 1943, n'avait qu'une capacité de 250 détenus. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes à près de 1000. Et vous regardez, 1000 dans une prison construite pour 250, mais vous aviez des conditions les plus horribles du monde, les conditions les plus difficiles. Donc ça pose un grand nombre de problèmes. Et nous pensons que nos prisons au niveau du Congo, ce sont des prisons de punition et non de rééducation.
Monica Ngalula suit pour le compte de son organisation, l'OCDH, les dossiers judiciaires de certains activistes politiques détenus à la maison d'arrêt de Brazzaville.
Ces détenus, la plupart, on constate que les dossiers sont vides. La justice n'arrive pas à qualifier des faits. Du coup, ils sont qualifiés des détenus d'opinion. Il y a de ceux qui sont arrêtés depuis la période de référendum jusqu'aux élections et jusqu'à ce net moment, qui sont là en train de croupir à la maison d'arrêt.
L'opposant Clément Mirassa n'hésite pas de qualifier de mouroir les prisons du Congo.
Tous nos amis qui sont en prison sont dans une situation d'inquiétude aujourd'hui. Regardez le cas de Modeste Boukadia qui a été hospitalisé un moment à l'hôpital Guen. On s'est empressé d'aller arrêter brutalement le traitement en lui arrachant tout le matériel de perfusion et on l'a ramené de force dans la cellule. Ça veut dire quoi? On souhaite sa mort. Il s'est opposé à un régime. Voilà.
Mais pour Thierry Mungala, le ministre de la Communication, les prisonniers bénéficient du minimum lié à leurs conditions, malgré tout ce qui s'est dit par les organisations internationales.
Contrairement à ce qui est dit par un certain nombre d'ONG habituées à taper sur le Congo, sur les conditions d'incarcération qui seraient difficiles, j'ai encore entendu récemment une organisation habituée à nous tirer dessus depuis Dakar ou depuis Paris ou depuis Londres, Amnesty International pour ne pas les nommer, ils pondent des rapports, mais ils ne sont pas en prise avec la réalité.
Les acteurs politiques emprisonnés attendent toujours leur procès dans des conditions de détention dont eux seuls connaissent la réalité. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Au Sénégal, chose plutôt inhabituelle, mais chose faite, une femme au volant d'un bus, désormais une réalité avec Sophie Diouk, 36 ans et mère de 3 enfants, la première femme conductrice de bus de transport en commun au Sénégal. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué, nous la présente.
Taille moyenne, teint noir et pleine d'assurance, Sophie Diouk a plus de 20 ans d'expérience dans le milieu de l'automobile.
J'ai toujours aimé la mécanique et les voitures. Au départ, j'étais mécanicienne, mais j'ai très tôt été attirée par le volant, car mes clients qui venaient au garage dépanner leurs voitures faisaient souvent appel à mes services pour leurs déplacements. Par la suite, ils m'ont incité à me reconvertir en chauffeur.
Au fil du temps, Sophie se détache de la mécanique pour tenter l'aventure dans le milieu des chauffeurs, largement dominé par les hommes.
J'ai conduit des poids lourds et toutes sortes de voitures avant de devenir chauffeur de taxi. Dans les rues de Dakar, je ne voyais que des hommes au volant des bus. Je me suis dit, pourquoi je ne pourrais pas devenir chauffeur de bus? Au début, certains me décourageaient en me disant qu'ils ne prennent pas de femmes. Mais malgré tout, j'ai toujours cru que je pouvais y arriver et aujourd'hui, j'y suis.
Sophie Diouk trône désormais au volant des imposants bus de Dakar Demdik. Face aux préjugés des clients, Sophie peut compter sur la confiance de sa direction. Momodou Siley Anne, responsable de la cellule de communication de la Société publique des transports, estime que seule la compétence compte.
Une communauté faite d'hommes et de femmes. Malheureusement, nous avons un métier qui est très orienté genre masculin, pour ne pas faire de qui, mais voilà, les gens, les innovations sont en train de venir. Et la seule condition qu'on a posée sur la table, c'est qu'elle remplisse, qu'elle puisse avoir son permis de transport en commun et quelles sont les aptitudes techniques et les tests techniques qu'on a fait pour pouvoir être recrutée. C'était le seul critère. Maintenant, il y a un travail d'adaptation, c'est à elle de le faire, c'est à elle de prouver qu'elle a sa place parmi nous.
La population et les usagers des bus de transport en commun devront dorénavant s'habituer à la junte féminine. La société Dakar Demdik, qui gère les transports publics, compte renforcer ses effectifs avec un contingent de femmes receveuses pour répondre aux défis de l'équilibre social. Seydina Abagué, à Dakar, pour La Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons des effets du tabac sur la santé.
Nous nous sommes rendus en République démocratique du Congo pour toucher du doigt la réalité du phénomène.
Nous recevons comme invité le professeur Jean-Marie Kayembe. Il est pneumologue. Il nous expliquera comment se développe la dépendance chez les fumeurs et les conséquences sur le corps humain.
Nous écouterons le témoignage du docteur Abraham Mifundu, expert au comité interministériel de lutte contre la drogue. Il nous dira ce que font les autorités pour réduire la consommation du tabac.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé tous les samedis, les dimanches et les mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Chères auditrices, chers auditeurs, branchez-vous sur VOA Afrique pour participer au Calling Show tous les mercredis et vendredis à 18h, temps universel. Avec vous, on discute de tout sans tabou. Politique, société, culture, justice et bien plus encore. Vous pouvez même nous suggérer des sujets sur notre page Facebook Ne manquez pas ce rendez-vous car c'est votre avis qui nous intéresse.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.